Bonjour à tous. C'est bien, il y a un rayon de soleil qui va se. Le copion, là, il s'est soulevé au papier, ça rayonne. Merci Seigneur, parce que je vois mieux ce que je dois dire. En tout cas, je voudrais aussi dire, comme tu as été dit ce matin, une bonne fête à tous les membres. Une bonne fête à tous les mamans.
Mais je voudrais aussi vous demander pardon parce que je n'ai pas préparé un message pour les mamans. Benoît, quand il m'a dit le 12, tu le prêches, déjà quand il dit je dois prêcher, je panique. Je ne regarde vraiment pas la date, qu'est-ce qu'il y a comme fête ce jour-là. Mais en tout cas, continuez toujours dans votre ministère de maman, qui est quelque chose de bien difficile, mais combien c'est précieux pour les enfants, pour le mari et pour tous. Je ne sais pas si les personnes qui sont alentour de vous, je parle de ceux qui ne sont pas chrétiens, vous posent des questions comme celle-ci. C'est qui Dieu? Dieu, que fait-il exactement? Surtout quand il y a des catastrophes, on se pose des questions. Mais Dieu, où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on répond? Eh bien, ce matin, on va rester encore dans ce livre des psaumes. Psaume 146, on va lire ensemble ces 10 versets. Psaume 146, les 10 versets. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Verset 3, ne vous confiez pas au grand, au fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va et ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Loué l'Éternel. Ce psaume, on ne sait pas qui a écrit ce psaume. On dit peut-être le psaume de l'orphelin. Mais ce matin, je voudrais, à chaque fois que je vais parler du psaume, l'auteur de ce psaume. Si on lui pose la question « Qui est Dieu ?» et « Que fait-il Dieu ?» je crois qu'il répond par ce psaume. Peut-être il rajoutera l'une ou l'autre chose, mais je sens vraiment que c'est la totalité. Et combien il est beau ce psaume. Il commence à dire « Louez l'Éternel ». Louer veut dire « Alléluia, gloire à Dieu ». Mais également, c'est mettre Dieu en avant. Le peuple de Dieu, quand il se rassemblait pour un culte comme aujourd'hui, ou pour des fêtes, ou avant de partir à l'attaque, il se rassemblait. Mais on doit savoir qu'ils n'étaient pas tous croyants. Du moins, Certains disaient qu'ils étaient croyants, mais au fond de leur cœur, ils n'étaient pas croyants. Et ce peuple se réunissait. Et l'auteur dit, louez l'Éternel. Mettez Dieu en avant. Un frère disait, et il n'a pas tout à fait tort, parfois louer, on pense que c'est taper des mains, et adorer, c'est fermer les yeux. Ça fait partie, mais il n'y a pas que ça. Louer, c'était également raconter ce que Dieu est et ce que Dieu fait. En quelque sorte, il est en train d'annoncer l'Évangile. Ouais, mais l'Évangile, c'est dans le Nouveau Testament, disons. En tout temps, il y a la bonne nouvelle, du début jusqu'à la fin. Il y a la bonne nouvelle. Ils n'avaient pas la possibilité, comme aujourd'hui, de donner un Nouveau Testament, un Évangile ou un traité. Il fallait raconter ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Et l'auteur dit, moi, mon âme, moi, je raconterai, je louerai l'Éternel. Tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Pas besoin qu'on me pose la question, moi, je vais mettre Dieu à l'avant et je vais raconter ce que Dieu fait et ce que Dieu est. Par la louange, par cette parole. Avec bien sûr la musique, mais la musique également du cœur. C'est la meilleure musique parce qu'elle est puissante, elle est vraie et sincère. Et voilà que cet auteur va commencer à annoncer la bonne nouvelle. Dans le verset 3, il dit « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver, verset 4, leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Ne vous confiez pas aux grands. Qui sont les grands? Bon, on pense aux princes, peut-être même le roi, mais aussi tous ceux qui sont des hommes généreux, qui font du bien. On dit des hommes de valeur. Aujourd'hui, on peut rajouter dans ces grands hommes un acteur, une actrice, un chanteur, une chanteuse, un grand joueur. Il n'y a pas si longtemps, j'ai regardé le journal. C'est vrai que j'étais un peu distrait, mais si je me souviens bien, on montrait le roi de l'Inde. Il y avait un petit reportage sur ça. Et on voit le journaliste qui pose la question à une personne qui était en mobylette avec ses cadres du roi. Et cet homme en mobylette dit, on doit tout à ce roi. Ce qui m'a touché le plus, c'est qu'il dit, je mourrai pour ce roi. Et dans la parole, on voit ici, ne vous confiez pas à ces personnes. Il ne reste que des hommes. Ils meurent et ils retournent à la terre. Je vous ai déjà parlé de mon voisin qui était gravement malade. Et voilà, il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, ma voisine qui vient pour me dire Jean-Pierre nous a quittés. C'était les larmes et les larmes. Je suis allé à l'enterrement. Il y avait un témoignage et cette femme disait Jean-Pierre était quelqu'un de bien. Moi qui suis le voisin, je peux dire vraiment qu'il était quelqu'un de bien. Mais ce verset me rappelle que personne ne peut sauver. Il reste un homme bien, le bien que tu peux faire, tu ne peux pas sauver. Alors, est-ce que tu mets ta confiance dans l'homme? Il est dit, mais heureux celui qui met son espoir en l'Éternel. Voilà comment il va répondre. C'est qui Dieu? C'est celui où il faut mettre son espoir, sa confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu qui sauve, mais en même temps, c'est le Dieu qui est vivant. L'homme est mort et reste mort. Mais Dieu est un Dieu vivant. Mais en plus qu'il est vivant, il vient à notre secours. Est-ce que tu as mis ton espoir en Dieu ou en l'homme? Est-ce que tu as mis ta confiance en Dieu? Et généralement, on vous dit, « Oui, mais c'est qui Dieu ?» Et le psaume le dit, c'est celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Aujourd'hui, on ne veut plus dire ça. C'est celui qui a créé l'homme et la femme, les animaux. C'est lui que tu dois mettre ta confiance. Celui qui a créé l'univers. Et ce Dieu qui a créé l'univers, c'est celui qui garde sa fidélité à toujours. Qui veut dire, tant que tu vois les cieux, la terre, la mer et tout le reste, tu vois tout le temps la fidélité de Dieu. Oui, mais quelle fidélité? Mais tout simplement, la fidélité que c'est un Dieu qui agit pour l'humanité, jour après jour, il agit. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Que fait-il Dieu, jour après jour? Ben, c'est ces versets 7 à 9 que je vais relire. S'il y a quelque chose à retenir, c'est cette parole. Il a fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et l'aveugle. Mais il renverse la voix des méchants. Que fait-il Dieu? Il fait droit aux opprimés. On dit souvent que les opprimés, ce sont ceux qui sont malheureux et pauvres, faibles. Et pourtant, si nous voulons vraiment être honnêtes en nous-mêmes, dans notre cœur, est-ce que nous ne sommes pas opprimés? Est-ce que nous ne sommes pas écrasés, accablés? J'avais entendu un homme qui n'était pas chrétien. Il disait à l'époque, le travail était dur. Dur physiquement. Aujourd'hui, le travail, c'est peut-être le plus dur moralement. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de dépression, qui est la souffrance. Saint Augustin dit, et j'ai trouvé ça beau, celui qui n'a pas le cœur brisé n'est pas guéri. Celui qui n'a pas le cœur brisé n'est pas guéri. Qui sont ceux qui ont le cœur brisé? Mais ce sont les personnes qui sont humbles de cœur. Le peuple de Dieu était opprimé dans le pays d'Égypte. Et Dieu a fait droit. Qui veut dire que Dieu était à côté de son peuple. Il attendait les cris et il prend la défense de son peuple. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Mais également, le peuple devait prendre soin de ceux qui étaient opprimés. Est-ce qu'on prend soin de ceux qui sont opprimés? C'est tellement difficile parce que ça se passe dans le cœur. C'est pourquoi Ecclésias dit au chapitre 4, au verset 1, « J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Personne qui les console. » Dieu est le Dieu qui fait droit aux opprimés. Est-ce que tu as mis ta confiance à ce Dieu-là? Ou tu as mis ta confiance dans l'homme? L'auteur dit, il donne du pain aux affamés. Et un frère disait, et il a tout à fait raison, qu'il avait du mal à prier pour le repas. Il est difficile de réaliser que la nourriture vient de Dieu. C'est pourquoi, quand on prie, nous disons, Seigneur, bénis la nourriture. On oublie parfois de dire merci pour cette nourriture que tu nous donnes. Avec certains de mes collègues, quand on parle de la nourriture, ils me disent souvent, mais c'est grâce au travail, que je travaille, que j'ai la nourriture. Alors je lui dis, oui, c'est vrai. Mais en même temps, je te dis que ce n'est pas vrai. Les premiers signes de l'amour de Dieu, c'est que Dieu fait pleuvoir pour faire féconde la terre pour l'humanité. Et aussi, Dieu prend soin de tous les animaux et les oiseaux du ciel. Voilà l'amour de Dieu. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nourriture. Est-ce que tu as mis ta confiance dans l'homme ou dans Dieu? Je préfère mettre ma confiance en mon patron qui me donne du travail. Je préfère avoir confiance à telle ou telle personne qui me donne de la nourriture. Mais la première personne, c'est Dieu. L'auteur continue, il délivre les captifs. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, il délivre les captifs? Mais dans la loi de Dieu, dans Lévitique au chapitre 25, c'était l'année du jubilé. Ça se passait tous les 7 fois 7 ans, tous les 49 ans. Une année jubilière. C'était l'année qu'on proclamait la liberté pour tous les esclaves. Tous les esclaves étaient libres. Et tous ceux qui avaient une dette, tous ceux qui avaient une dette étaient effacés. Tout était remis à zéro. L'Éternel délivre les captifs. Il délivre ces personnes. Nous sommes, où on le veuille ou on ne le veut pas, nous sommes tous esclaves du péché. Et chacun de nous, nous avons une dette envers Dieu. Nous sommes tous captifs. Et l'Éternel vient délivrer les captifs. Nous sommes au temps où Dieu délivre. Aujourd'hui, c'est le jour du jubilé. Comment Dieu délivre? On en a parlé ce matin. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix. Il prend nos fautes, notre dette, il la prend sur lui. Ce que nous étions tous esclaves, il prend ça sur lui pour nous rendre libres. Le peuple de Dieu était également esclave en Égypte. Et ce Dieu les a délivrés. En qui je mets ma confiance? En l'homme ou en Dieu? L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. On doit savoir qu'à cette époque-là, il y avait énormément des aveugles. Parce que dans l'eau, il y avait des bactéries, des parasites. Et à cause de ça, ces personnes devenaient aveugles. Les plus riches mélangeaient l'eau avec du vin pour éliminer ces bactéries. Mais on sait, dans ces contrées-là, il faisait très chaud, il fallait boire. Ça commençait par la cataracte, et puis il devenait aveugle. Manque de vitamine A. C'est pourquoi, dès le début, Dieu, dans la loi, il dit qu'il faut prendre soin de ces personnes-là. Tu ne maudiras point aux sourds, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse lui faire tomber. Écoutez la suite. Car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Quel commandement! L'auteur dit, il ouvre les yeux des aveugles. Certainement qu'il a eu des miracles. Et on voit, avec l'accomplissement de Jésus-Christ, qui fait ses miracles à ses aveugles, mais c'est pour montrer qu'il est toujours le même de l'Ancien Testament, mais également, c'était dit que le Messie va ouvrir les yeux des aveugles. Mais toute la Bible nous rappelle quelque chose de très important, et on l'a dit dans les prières. C'est dans 1 Jean, au chapitre 2, au verset 11, il dit « Mais celui qui aime son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Il marche dans les ténèbres. Nous avons tous marché dans les ténèbres. Et ces ténèbres a aveuglé nos yeux. On ne voyait pas que Dieu nous aimait. On ne voyait pas que Dieu voulait nous pardonner. Et Dieu a fait ce miracle. La conversion, c'est un miracle. Il ouvre nos yeux pour voir l'amour de Dieu, le pardon pour chacun de nous. Il ouvre le cœur. Ce que Dieu fait, il ouvre les yeux de notre cœur. Est-ce que je mets ma confiance en ce Dieu-là ou je mets la confiance dans l'homme? L'auteur continue à dire, il redresse ceux qui sont courbés. Et là, je dois reprendre un verset qui est au chapitre 145 du Psaume, 145, verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Effectivement, le croyant tombe encore dans le péché. On ne voudrait pas tomber, mais on doit être honnête, on tombe encore dans le péché. On doit être honnête avec les personnes qui sont alentour de nous, qui croient que nous sommes les héros, les bons chrétiens. Nous tombons encore, il faut le dire, nous tombons encore dans le péché. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il nous redresse, nous qui sommes courbés. Comment le fait-il? Quand nous revenons à la croix et nous confessons par notre bouche notre faute, notre péché, et Dieu nous redresse. Voilà la fidélité de Dieu. Voilà la grâce de Dieu. Alors mes collègues me disent, mais Gino, c'est trop facile ça. Et là, je le regarde et je lui dis, mais pourquoi tu ne le fais pas? Tu verras que ce n'est pas si facile que comme tu le dis. Si maintenant, aujourd'hui, je te dis, mets-toi à genoux et fais le tour de l'usine pour tel et tel péché, qu'est-ce que tu vas me dire? Ce Dieu-là, c'est un fou. Mais il te demande simplement de confesser ton péché. Est-ce qu'on met notre confiance à ce Dieu-là, ce Dieu qui nous redresse? Que fait-il, Dieu? Il nous redresse. Ou je mets ma confiance dans l'homme? L'Éternel aime les justes. Qui sont les justes? Mais toute la parole nous montre qu'il n'y a personne de juste, pas même un seul sur la terre. Une seule personne est juste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui ont mis cette confiance en lui seul, nous sommes justes. Et l'auteur sait très bien qu'il n'y a personne de juste, parce que dans le psaume 13, il le dit. Mais cet auteur a mis la confiance en l'Éternel. Et l'Éternel aime les justes. Ce que Dieu fait, c'est qu'il aime les justes. Est-ce qu'on met notre confiance en l'Éternel? L'Éternel protège les étrangers. Dans Exode, il dit, tu ne maltraiteras point l'étranger. Et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. L'Éternel protège les étrangers. Je veux dire vraiment merci à la Belgique qui prend bien soin des étrangers. Même si aujourd'hui ils sont débordés, il y a tellement des étrangers qui arrivent dans tous les sens. Ils sont débordés. Mais combien ils ont fait pour les étrangers? Je suis encore étranger. Ici on me dit que je suis italien et quand je vais en Italie on me dit que je suis un Belge. Alors je suis étranger. Mais je peux un tout petit peu comprendre les étrangers. Mais vous aussi, quand vous partez à l'étranger, vous comprenez que vous êtes étranger dans ce pays. Et l'Éternel protège les étrangers. Est-ce qu'on ne doit pas confesser les personnes qu'on regarde à la rue? Ils n'ont pas la même couleur de peau que nous. Et Dieu protège les étrangers. Comment on les regarde? Comment on regarde ceux qui font Ramadan aujourd'hui? Est-ce qu'on ne doit pas confesser pour ces personnes? Parce que l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il protège. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il protège? Ça va plus loin que ça. Il avait déjà ce plan, dès le commencement, de sauver tous les peuples. Il veut protéger, il veut sauver tous les peuples. S'ils viennent ici en Belgique, combien nous avons la chance de leur annoncer la bonne nouvelle. Plus besoin d'aller jusque là-bas, ils viennent vers nous. Comment je regarde l'étranger? Mais l'Éternel regarde l'étranger, il prend soin de l'étranger. Est-ce que je fais confiance en l'Éternel ou en l'homme? Il soutient l'orphelin et la veuve. Tous ceux qui ont perdu papa, maman, aujourd'hui c'est la fête des mamans, tous ceux qui ont perdu leur maman, tous ceux qui ont perdu mari, femme, je dirais enfant. L'Éternel soutient ces personnes. Il sait, l'Éternel, que c'est douloureux de perdre une personne. Il le sait très bien. Et il soutient, ça veut dire il porte cette douleur avec toi. Ma voisine m'a dit, Gino, il faut maintenant que j'ai perdu mon mari, il faudra que tu viennes m'épauler. C'est dur, après autant d'années de mariage, perdre son mari. L'Éternel sait la douleur de son cœur, de cette femme. Mais est-ce qu'on veut mettre notre confiance en lui? Et voilà que l'auteur termine cette bonne nouvelle, que parfois on a peur de le dire, en disant, c'est quelque chose de très important, il renverse la voie des méchants. Il renverse la voie des méchants. C'est qui les méchants? Mais c'est tous ceux qui ne placent pas leur confiance en l'Éternel, mais plutôt à l'homme. Voilà les méchants. Et généralement, on vous dit, mais je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de généreux, je fais le bien autour de moi, je suis honnête, je ne vole même pas, je suis honnête. Alors, on doit revenir alors dans le verset 3, où il dit, alors vous êtes des fils, ces hommes, fils de l'homme, il dit, aux grands hommes, tu te confies à toi-même. Voilà le verset 3. Je mets ma confiance en moi-même. Et Dieu renverse ce chemin. Ça veut dire, tu es sur le chemin de la perdition. Tu es sur le chemin de l'enfer. Ne mets pas ta confiance en toi-même. Ne mets pas ta confiance dans l'homme, mais plutôt à l'Éternel. L'Éternel règne éternellement. Sa fidélité règne encore aujourd'hui. Ton Dieu au Sion. Est-ce qu'il est ton Dieu au Sion? Au Sion, c'était où il y avait le temple, la présence de Dieu. Est-ce qu'il est ton Dieu? Et il vit dans ton cœur. Est-ce qu'il y a la présence de Dieu dans ton cœur? Ou il est simplement ton Dieu par parole? La conclusion, excusez-moi, mais j'ai pris un peu plus de temps. Ce que Dieu est, ce que Dieu fait, c'est que tu dois mettre ta confiance en lui seul, en Jésus-Christ. Il est dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Heureux. Ça ne vous fait pas tête heureux? L'évangile de Matthieu, où Jésus commence son ministère en disant « Heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui ont le cœur pur. » C'est qui ces cœurs purs? Mais tous ceux qui sont heureux, qui ont mis leur confiance en l'Éternel. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, heureux. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes heureux? Ça ne veut pas dire de faire tout le temps le sourire, mais heureux. Et Anne-Marie l'a bien dit. Est-ce qu'elle est là, Anne-Marie? Oui. Anne-Marie l'a bien dit dans ça, mardi à la réunion de prière. Elle dit, nous sommes dans la joie, Seigneur, de t'appartenir. C'est ça d'être heureux. De lui appartenir, d'avoir mis notre confiance en lui, nous sommes heureux. Et si nous sommes heureux, nous sommes comme l'auteur de ce psaume qui dit « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je le dirai à tous ce que Dieu est, ce que Dieu fait. Je le dirai avec la musique de mon cœur. Avec la musique de mon cœur, je célébrerai l'Éternel. Tous les jours, je le dirai à tous ceux qui sont alentour de moi. Ce que Dieu est, ce que Dieu fait, c'est que tu dois mettre ta confiance en lui. Amen.